19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Monde aujourd'hui avec Chérubin Dorsil et Morgane Guériac en direct de Washington, jeudi 4 décembre. Ravi de vous retrouver à l'écoute de VOA Afrique.
Les grands points de l'actualité au Nigeria. Après les attaques meurtrières de lundi, Boko Haram revient à la charge, cette fois avec des pillages, vols et incendies de bâtiments de police.
République centrafricaine, un an après l'arrivée de la force française, le commandant de Sangaris estime que la situation est en voie de se normaliser.
RDC, la mission de l'ONU, annonce la réduction de ses effectifs en 2015.
Aux États-Unis, une décision d'une chambre de mise en accusation ravive les tensions raciales à New York. De nouveau, un policier blanc n'est pas inculpé pour avoir tué un noir non armé.
Moi, je suis un parent, j'ai un fils qui a 26 ans et je le dis constamment, vous devez vous soumettre aux demandes de la police.
Marc Elias, ancien chef de la police du Nord de Miami. Et nous aurons une nouvelle page économique, les sports et la musique. Mais d'abord le journal.
Nous ouvrons au Nigeria. Le groupe islamiste Boko Haram a attaqué deux nouvelles localités du nord-est du pays ainsi qu'une usine Lafarge, déjà pillée il y a tout juste un mois. Claire Morin-Gibourg.
Ce matin, Boko Haram a successivement attaqué les villes de Bajoga et d'Achaka, où les terroristes ont pillé des banques et volé des véhicules et des médicaments. À Bajoga, les affrontements avec les forces de l'ordre ont duré 3 heures. Un commissariat de police et plusieurs sièges de partis politiques ont été brûlés. Les insurgés ont quitté la ville suite à l'envoi de renforts. Le groupe islamiste a ensuite effectué un raid sur une cimenterie du groupe français Lafarge, située en périphérie d'Achaka, mais aucune victime n'est à déplorer. Une cimenterie qui avait déjà été prise pour cible le mois dernier. Ce nouveau raid fait suite à une double attaque meurtrière lancée lundi sur les capitales régionales de Maïdougouri et de Damaturu, également dans le nord-est, épicentre de l'insurrection islamiste. Depuis 8 mois, Boko Haram a pris le contrôle de plus d'une vingtaine de villes dans le nord-est du Nigeria.
Au Mali,
3 membres d'une même famille ont été enlevés par des hommes armés près de Ménaka, à la frontière avec le Niger. Idriss Fall.
Ces 3 Maliens, membres d'une même famille, étaient partis en voiture de Ménaka pour Bani Bangou, au Niger. Leur véhicule a été bloqué par des hommes armés. Les ravisseurs sont repartis en voiture avec les 3 otages. Bani Bangou au Niger a été la cible de 2 attaques en octobre et en novembre qui ont été revendiquées par le Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest qui avait occupé le nord du Mali. Les forces de sécurité maliennes avancent 2 hypothèses, des représailles contre des informateurs ou un règlement de compte entre communautés. En septembre, 5 Touaregs d'une même famille avaient été enlevés près de Tombouctou. 4 ont été relâchés, mais le 5e a été décapité.
La République centrafricaine en voie de normalisation, c'est en tout cas le point de vue du commandant de la force française Sangaris, 1 an après le début de l'opération. Le général Bello des Minières souligne que le niveau de sécurité est sans commune mesure avec la situation rencontrée au moment du déploiement français. Il reconnaît toutefois des pics d'insécurité dans le pays. Estimant qu'un palier sécuritaire a été atteint, le général préconise de dépasser le cadre des actions purement militaires et de les élargir à une approche beaucoup plus globale.
République démocratique du Congo, la mission de l'ONU compte réduire ses effectifs en 2015. Si l'autorité de l'État est restituée, on peut réduire notre présence, explique le chef de la MONUSCO, Martin Kobler. Une délégation de New York s'est d'ailleurs rendue sur place pour voir comment les dispositifs pouvaient être réduits. Mais alors que la MONUSCO estime que la situation sécuritaire s'améliore, l'est de la RDC est en proie à de violents groupes armés. Rappelons que cette force onusienne, qui compte aujourd'hui quelques 20 000 hommes, est l'une des plus importantes au monde.
Triste bilan au Kenya, les violences intercommunautaires ont fait plus de 300 morts cette année. Plus de 220 000 personnes ont dû fuir leur foyer, chiffre des Nations Unies. Le nombre de déplacés aura ainsi quadruplé par rapport à 2013. Le vol de bétail et le meurtre en représailles entre communautés rivales se sont intensifiés à cause de la sécheresse.
La police kényane a interpellé 77 ressortissants chinois accusés d'être à la tête d'un réseau cybercriminel et d'un mystérieux centre de contrôle installé dans des villas d'un quartier chic de Nairobi. Michel Joseph.
Selon la police, citée par le quotidien Daily Nation, le gang s'apprêtait à lancer une attaque contre les systèmes de communication du pays. Il était équipé de matériel lui permettant d'infiltrer des comptes bancaires, des distributeurs d'argent liquide ou le système de paiement par téléphone mobile M-Pesa. Les suspects sont en cours d'interrogatoire, a confirmé le directeur du département d'enquête criminelle, Ndegwa Muhoro. La police a lancé ses raids après une enquête sur l'incendie d'une des villas louées par le groupe et où le feu avait fait un mort. Selon lui, les 77 personnes interpellées entre dimanche et mercredi sont officiellement inculpées de présence illégale dans le pays et usage d'équipements de communication radio sans les autorisations nécessaires. La ministre kényane des Affaires étrangères, Amina Mohamed, a clairement fait savoir qu'une entière coopération du gouvernement chinois était nécessaire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Accent de colère, manifestations de rue, critiques acerbes dans les médias, telles ont été les premières réactions à la décision d'une chambre de mise en accusation de Staten Island, New York, de ne pas inculper un policier blanc qui a tué par étranglement un homme noir de 43 ans. C'était au mois de juillet. Le crime de la victime ? Il vendait des cigarettes sans permis. Lionel Gaïman.
À peine quelques heures après la décision du grand jury, une foule s'est réunie à Times Square, endroit emblématique de la ville de New York, lançant des slogans mais sans violence. La police a toutefois arrêté 83 personnes au cri de « No justice, no peace », »,« Pas de justice, pas de paix ». Ils ont défilé, forçant les policiers à bloquer l'accès au Rockefeller Plaza où devait se dérouler une cérémonie traditionnelle en prévision de la Noël. Non loin de là, à la Grande Gare centrale, des dizaines de personnes se sont allongées sur le sol dans une protestation silencieuse. Les gens doivent savoir que l'on se soucie de ce qui se passe et que ce n'est pas normal, dit cette manifestante. C'est New York et ce qui se passe dans d'autres États ne peut pas arriver ici. Le médecin légiste à New York avait conclu à un homicide dans le cas d'Eric Garner. Une poursuite au civil est très probable, estiment certains juristes. De son côté, le ministre de la Justice, Eric Holder, a annoncé l'ouverture d'une enquête fédérale sur la mort d'Eric Garner, qu'on a vue sur une vidéo amateur implorée « Je ne peux pas respirer », alors que le policier Daniel Pantaleo, 29 ans, l'étranglait. Le président Barack Obama, le premier noir à occuper cette fonction, reconnaît que de nombreux Américains sont frustrés par les récents événements.
We recognize this is an American problem and not just a black problem or a brown problem or a Native American problem. This is an American problem. When anybody in this country is not being treated equally under the law, that's a problem.
Lorsque n'importe qui dans ce pays n'est pas traité de manière égale devant la loi, c'est un problème. Et il me revient en tant que président d'aider à le résoudre. Alors que les tensions sont encore vives dans les communautés noires suite à la non-inculpation du policier blanc qui a tué Michael Brown, un jeune noir non armé dans le Missouri, et le meurtre d'un adolescent noir dans l'Ohio parce qu'il jouait avec un pistolet factice, la non-inculpation des Pantaleo risque de mettre de l'huile sur le feu.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a fait savoir que de meilleures relations entre la Russie et l'Occident sont possibles si Moscou cesse de soutenir séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine répondait ainsi au président russe Vladimir Poutine qui a accusé Washington et ses alliés d'inventer des prétextes pour freiner la Russie. Jean-Roger Billon.
John Kerry s'exprimait ce jeudi à Bâle, en Suisse, à une réunion de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Aux accusations du numéro 1 russe, le chef de la diplomatie américaine a répondu que Moscou est isolé par ses propres actions. Le chef de la diplomatie américaine a déclaré que le soutien de la Russie aux rebelles en Ukraine entachait la crédibilité de Moscou, avertissant que ses citoyens en paieraient le prix économique et humain. L'Occident a imposé des sanctions économiques douloureuses à la Russie, accusant Moscou de fournir des armes et des troupes aux rebelles de l'Est de l'Ukraine. Kerry a réitéré aujourd'hui ses accusations, affirmant que la Russie a violé les termes d'un accord de cessez-le-feu signé par les rebelles et Kiev au mois de septembre. La Russie nie avoir fourni des armes et des troupes aux séparatistes, mais estime que son implication en Ukraine était justifiée après le soutien des Occidentaux à ce que Moscou considère comme un coup d'État qui a renversé les dirigeants pro-russes dans le pays. La crise ukrainienne sera au cœur d'une réunion cette nuit entre John Kerry et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov.
Sachez aussi qu'en dépit des sanctions imposées à la Russie entraînant la détérioration de l'économie russe, Vladimir Poutine demeure très populaire dans son pays. Un récent sondage lui donne une cote de 85% et 57% des Russes dans les 46 régions du pays pensent qu'il est l'un de leurs dirigeants les plus dignes de confiance. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique.
Nouvelle rubrique dans cette émission, la Minute Éco. Tout sur l'actualité économique en Afrique. Et pour nous en parler, avec nous en direct dans ce studio, Nicolas Pineau. Bonsoir.
Bonsoir, Morgane.
On commence par ce déblocage de la France envers la Côte d'Ivoire. 1 milliard d'euros.
Annonce faite par François Hollande en marge de la visite d'Alassane Ouattara à l'Élysée. Cette somme constitue la deuxième tranche d'un contrat de désendettement et de développement conclu entre les deux pays. La première s'étant élevée à 630 millions d'euros pour la période 2012-2015. François Hollande a souhaité que la présidentielle prévue en 2015 se déroule dans la transparence et le pluralisme.
L'arrivée d'un géant français de la vente en ligne au Cameroun.
Après s'être implanté en Côte d'Ivoire et au Sénégal, la plateforme de vente en ligne Cdiscount, filiale du groupe Casino, se lance désormais au Cameroun. Depuis hier, les clients camerounais peuvent accéder à plus de 50 000 références disponibles sur le site dédié www.cdiscount.com.
Et la 4G qui arrive au Kenya.
Safaricom a lancé aujourd'hui le premier réseau 4e génération dans le pays. La téléphonie mobile est un véritable enjeu pour Nairobi qui espère qu'elle contribuera à 10% du PIB d'ici 2017. Aujourd'hui, ce n'est que 3%.
Merci Nicolas Pineau pour cette Minute Éco. Suivez désormais ce segment spécial sur l'économie juste après le journal.
Le Monde aujourd'hui, c'est aussi les sports et l'actualité, c'est encore la Coupe d'Afrique des Nations. Bagassi Koura, bonsoir.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Alors, retour sur le tirage au sort de la phase finale de la CAN 2015 en Guinée équatoriale.
Oui, le pays organisateur qui affrontera dans le groupe A le Burkina Faso, le Gabon et le Congo. Pour Sita Sangare, le président de la Fédération Burkinabé de football, les étalons vice-champions d'Afrique sont ravis de jouer face au pays hôte.
C'est une bonne chose de pouvoir jouer dans le groupe du pays organisateur parce que il ne faut jamais oublier que le football, c'est avant tout un spectacle. Et le pays organisateur évoluant devant son public, cela garantit une certaine ferveur populaire.
Voilà, c'était Sita Sangare, président de la Fédération Burkinabé de football. A noter que le Congo-Brazzaville n'a plus joué la CAN depuis 1990. Son sélectionneur Claude Leroy, lui, participera à sa 8e phase finale en tant que sélectionneur.
Retrouver cette Coupe d'Afrique des Nations en faisant le match d'ouverture, c'est une chance extraordinaire. Donc maintenant, on va essayer d'être digne de cette compétition. On va essayer de bien jouer au foot et d'être exemplaire dans le comportement. Le Gabon, ils sont toujours là depuis un moment. C'est une grosse équipe. Le Burkina Faso, c'est vice-champion d'Afrique. Et la Guinée équatoriale, ce sont les organisateurs. Donc, bien évidemment, ça va être difficile, mais on va essayer de se battre pour faire honneur à cette Coupe d'Afrique des Nations.
Claude Leroy, pour le sélectionneur des Diables Rouges du Congo.
Bagassi, dans le groupe B, les autres Congolais de la RDC.
Oui, ils seront face à la Zambie, au Chipolo Polo, champion d'Afrique en 2012, mais aussi au Cap-Vert et à la Tunisie. Écoutons Florent Ibenge, le sélectionneur de la RDC.
Un groupe équilibré avec trois équipes qui sont a priori au-dessus de nous. La Tunisie, le Cap-Vert et puis à la Zambie. Puis un novice qui est la RDC, donc qui fait office de petits poussés. Donc un groupe qui sera très relevé pour nous, qui sera difficile à jouer. Mais on a l'envie et puis la volonté d'embêter tout le monde et d'accrocher une des deux premières places.
Voilà, c'était Florent Ibenge, sélectionneur de la RDC, interview de nos partenaires de Top Congo FM.
Quel sera le groupe de la mort dans cette CAN?
Voilà, c'est le groupe C, avec l'Algérie, première nation africaine au classement FIFA, le Ghana, l'Afrique du Sud et le Sénégal. Et ça va faire des étincelles sur le terrain, Chérubin.
Dans
le groupe D, on a les éléphants de Côte d'Ivoire, les éternels favoris qui feront face au Cameroun qu'ils viennent d'affronter lors des éliminatoires, qu'ils avaient déjà rencontré donc lors de ces éliminatoires. Aussi le Mali et la Guinée. Le Sili National ne part évidemment pas favori, mais jouera pleinement sa chance.
Et rapidement, la vidéo va faire son apparition sur les pelouses allemandes.
Oui, le recours à la vidéo sur la ligne de but a été adopté par le club de la Bundesliga pour faire son apparition officielle le 1er juillet 2015 en vue de la saison prochaine, a annoncé jeudi la Ligue allemande de football. Le recours à la vidéo chirurgien a reçu plus de 2/3 des voix des 8 clubs de l'élite réunis à Francfort.
Et si ça commence en Allemagne, espérons que ça pourra peut-être s'élargir à d'autres pays. Et qui sait, peut-être sur le plan international, à la Coupe du Monde même.
Ça va éviter toutes ces polémiques, hein.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil, en votre compagnie, Le Monde aujourd'hui, on enchaîne sur les dossiers du jour. Les juges de la CPI ont donné hier une semaine au procureur Fatou Bensouta pour qu'elle apporte des preuves supplémentaires contre le président kényan Uhuru Kenyatta, ou à défaut, retirer les accusations. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Aboubakri Modji, secrétaire exécutif de la RADO, la rencontre africaine de défense des droits de l'homme.
C'est une décision qui nous choque. Nous suivons de près la bataille menée par le Kenya au niveau de l'Union africaine pour se désengager vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Et c'est des États africains qui ont ratifié le statut de Rome. Et ce sont les mêmes dirigeants qui se retournent contre la Cour pour essayer de la discréditer.
Fatou Bensouda, pour le moment, elle n'a pas beaucoup de preuves.
Elle n'a pas beaucoup de preuves. Là également, le Kenya lui-même a eu à engager un processus au niveau national qui ne va pas dans le sens de fournir suffisamment de preuves. C'est un processus qui a été déjà pipé dès le départ. Le gouvernement actuel de Kenyatta, il y a, si vous voulez, une sorte de sabotage. C'est des attitudes irresponsables des États qui ont déjà pris des engagements et qui aujourd'hui font volte-face.
Il y a des voix qui s'élèvent et qui disent aussi que la CPI ne juge que les Africains.
Le statut de Rome, il faut qu'il y ait, par exemple, que l'État soit parti du statut de Rome. Or, vous prenez aujourd'hui la Palestine, nous dénonçons les violations qui se perpétraient au niveau de la bande d'Gaza. Mais le gouvernement palestinien n'a pas ratifié la Cour pénale internationale.
Le gouvernement du Soudan n'a pas ratifié.
Pour le Soudan, c'est les Nations Unies qui ont saisi la Cour, bien que le Soudan ne soit pas État parti. Donc si nous regardons les pays qui ont, par exemple, ratifié le statut de Rome, les pays africains, il y a à peu près 34 États qui ont ratifié le statut de la Cour. Et ce sont ces États aujourd'hui qui également avaient saisi la Cour. Je sais que le Mali a saisi la Cour, la Côte d'Ivoire a saisi la Cour.
La Côte d'Ivoire a fait transférer Laurent Gbagbo, mais il y a des partisans d'Alassane Ouattara qui ont commis des atrocités pendant la crise post-électorale. Ils sont libres là-bas, à Abidjan.
Pour la plupart des pays en sortie de crise, malheureusement, ces pays en général, ce à quoi on assiste, c'est à la justice des vainqueurs. On sait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, aussi bien les forces qui étaient engagées du côté du Nord ont commis des exactions très graves. Mais on ne poursuit que dans un seul camp.
Voilà, c'était Aboubakri Modji, secrétaire exécutif de la RADO, la rencontre africaine de défense des droits de l'homme. Dans le monde, de plus en plus de pays procèdent au filtrage de l'Internet et adoptent des lois permettant une plus grande surveillance des activités en ligne, Gabi.
Et c'est ce qui ressort du rapport État de la Toile 2014 de l'ONG Freedom House. Cette ONG, basée ici à Washington, a noté une dégradation de la situation dans des pays comme la Russie, la Turquie, le Zimbabwe, mais aussi dans une certaine mesure ici même. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï s'est entretenu avec Adrian Chabaz, chercheur sur les droits de l'Internet de Freedom House.
En Turquie, on a vu des efforts concernant l'Internet, sur même les réseaux sociaux. On a vu le blocage de Twitter et YouTube avant les élections en mars. Dans l'Ukraine, on a vu, à cause de la révolution, la pression qui monte sur les journalistes qui écrivent sur l'Internet. On a vu quelques journalistes qui sont battus même lorsqu'ils filment les manifestations et aussi des blogueurs qui ont été attaqués par des forces pro-gouvernementaux avant la révolution. Les usagers de l'Internet n'ont même pas accès dans certains régions comme la Crimée pendant la révolution.
Vous notez que la situation reste aussi inquiétante en Arabie Saoudite, par exemple.
Oui. En Arabie Saoudite, on a vu des arrestations des défenseurs des droits humains comme Mukhlifa Shamari et d'autres pour des sentences de même presque 15 ans en prison pour des choses comme des vidéos montées sur YouTube et même des appels au roi de faire des réformes et ensuite d'améliorer la situation quant aux droits humains dans le pays. Et on a même vu le blocage de quelques sites indépendantes qui donnent des nouvelles aux Saoudiens. Mais aussi, il faut dire qu'en Arabie Saoudite, les réseaux sociaux comme YouTube et Twitter sont très, très usés par les Saoudiens, même si on a des restrictions sur qu'est-ce qu'on peut mettre comme vidéo et comme post sur les réseaux.
Qu'en est-il de l'Afrique?
Cette édition du rapport constate que 8 sur 12 pays d'Afrique subsaharienne évaluée expérimentent des baisses de la liberté d'Internet pendant notre période de couverture. Les 4 pays restants n'enregistrent aucun changement, aucun pays ne montre des améliorations, contrairement aux années précédentes.
Freedom House note aussi une situation préoccupante ici aux États-Unis.
Oui, alors, les États-Unis ont diminué leurs notes cette année, principalement en raison des révélations continues au sujet des pratiques de surveillance de la NSA. De nombreux utilisateurs d'Internet sont auto-censurés en raison de ce manque de sécurité dans leurs communications et leurs activités en ligne.
Voilà, c'était Adrian Chabaz, chercheur sur les droits de l'Internet de Freedom House à Washington.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retour sur l'affaire Eric Garner, ce noir de 43 ans qui a été tué à New York par un policier blanc, Daniel Pantaleo, âgé de 29 ans. Eh bien, ce dernier ne sera pas inculpé, selon ce qu'a décidé hier une chambre de mise en accusation. La tension est vive à New York, d'autant qu'une décision similaire dans le Missouri avait provoqué des manifestations violentes récemment. Au micro de Timothée Donangmaï, Marc Elias, un ancien chef de police de la ville de North Miami, offre ses impressions.
La loi est extrêmement claire. Lorsqu'un policier vous dit d'accord ou d'arrêter et vous pose des questions, on doit comprendre que le policier fait son travail. Mais maintenant, lorsque vous frappez le policier, on doit essayer de comprendre. Il y a deux types de lois ici. Il y a les felonies et les misdemeanors. Les felonies, ce sont des lois qui sont beaucoup plus graves. Par exemple, si vous frappez un policier, c'est quelque chose qui est grave.
Dans le cas de New York, le suspect n'a pas frappé les policiers.
Ah, c'est ce qu'on a dit, oui. Qu'il n'a pas frappé le policier. Le policier lui a dit, OK, vous allez être en état d'arrestation. Il n'a pas agréé à la demande du policier. Ce qui est arrivé avec le New York, où le policier, j'ai vu ça à la télévision, lui a donné un clé de cou. Je peux te dire qu'en Floride, depuis l'année 2000, on ne traîne pas les policiers à l'académie et tous les différents agents de police sachent qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais écoute, lorsque un policier va parler avec quelqu'un, même si la personne est un peu agitée, on nous apprend de quoi de calmer la situation. On n'agit pas subitement pour retirer le bâton ou bien l'homme. On fait ce qu'on appelle le verbal judo, c'est-à-dire on essaie de parler avec la personne et de calmer la personne. Donc ces deux situations, c'est un peu différent parce que le premier avec Ferguson, on nous a dit qu'il a frappé le policier. Donc lorsqu'il a frappé le policier, il a pris fuite. Mais maintenant, lorsque le policier lui a dit, d'après ce qu'on a dit, de s'arrêter, il a levé les deux mains en l'air. Dès qu'on enlève les deux mains en l'air, on n'a pas le droit de faire tirer quelqu'un, d'accord? Parce que ça, ce sont les lois ici, en Floride. Mais encore une fois, si on dit par exemple, si vous frappez un policier, vous êtes considéré comme un homme qui est homme et dangereux, et le policier peut, à ce moment, prendre des sanctions contre vous. Tandis qu'en Floride, on vous dit que dès que tu lèves les mains, on n'a pas le droit de croire de vous tuer.
On entend souvent dire que les policiers ont besoin d'un peu plus de formation pour mieux se comporter au sein des communautés. Qu'en dites-vous?
Oui. non seulement l'information à l'académie, mais lorsqu'il est, par exemple, à la police également. Je vais vous donner un exemple, d'accord? Quand j'étais chef de la police pendant les 4 ans à North Miami, dès que le policier rentre pour savoir, OK, où il va être affectué, on fait des cours de 30 minutes avec eux sur les différents droits et comment pour aussi agir avec quelqu'un. Donc, constamment, on fait un recyclage avec les policiers.
Marc Elias, un ancien chef de police dans la municipalité de North Miami.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Sénégal, les langues nationales ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale. Un député sur trois ne parle pas le français, qui reste la langue officielle de travail. Depuis mardi 2 décembre, les élus sénégalais peuvent s'exprimer en wolof, en diola, en malinké, en poulard, en sérère, en soninké ou en français, avec une traduction simultanée, à l'intérieur de l'hémicycle.
Pour Moustapha Niass, qui est le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, tous les documents écrits continueront d'être en français, Morgane. Il a ajouté que le français n'est pas une langue exclusive des langues nationales qui sont la base du patrimoine culturel sénégalais. Alors, le nouveau système d'interprétation simultanée est entré en vigueur au surlendemain du 15e sommet de la francophonie qui s'est tenu les 29 et 30 novembre près de Dakar. Ce système a coûté 450 000 euros, soit près de 300 millions de francs CFA. Il a été financé non par la France, mais par le Parlement de l'Union européenne. Idriss Fall a joint à Dakar Mme Pendanzia Essissé, députée.
J'ai trouvé qu'avec l'avènement de la 12e législature, nous avons 150 députés, dont 64 femmes. La majorité des députés, en fait, ne parlent pas le français. Donc, qu'on puisse permettre à ces députés qui s'expriment dans la langue nationale de pouvoir se faire comprendre par les autres députés qui ne comprennent pas cette langue-là. Il arrive même que le président lui-même ne comprenne pas ce que le député dit et que le ministre qui est venu pour défendre son budget, pour défendre un projet de loi aussi, que le ministre ne comprenne pas ce que dit le député. L'autre constat, c'est qu'au niveau du journal des débats, à chaque fois, quand les secrétaires transcrivent les débats dans le journal des débats, la secrétaire ou l'assistante écrit « à parler en wolof » ou bien « à parler en sérère ». Alors que quand ils parlent en français, ils peuvent transcrire. Ces deux constats ont fait qu'il était important de pouvoir initier ce système pour permettre une meilleure compréhension de ce qui se dit au sein de l'hémicycle.
Et maintenant, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des interprètes qui sont là? Comment ça se passe?
Nous avons, avec le projet de l'Union européenne qui a financé les équipements d'interprétation, il y en a 8 cabines pour 6 langues nationales et le français. Donc nous avons 7 langues qui sont interprétés dans l'hémicycle. Et les interprètes ont été recrutés sur la base d'un appel à candidature. C'est des jeunes étudiants diplômés qui maîtrisent une ou deux langues nationales.
Les langues nationales au lendemain du sommet de la francophonie au Sénégal? C'est un hasard de calendrier?
Non, c'est un hasard de calendrier. Le système était mis en place depuis l'année dernière et c'est parce qu'on a eu à former ces interprètes que l'inauguration a pris du temps, en fait. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec la francophonie. La francophonie, c'est le français, vous me direz. Mais si vous allez au Parlement européen, vous avez 28 pays qui sont présents dans le Parlement et vous avez 24 langues qui sont parlées, qui sont interprétées dans cette institution-là. Et c'est le Parlement européen, avec son président en tête, qui ont appuyé l'Assemblée nationale du Sénégal pour la mise en place de ce système. Le français, c'est une langue de travail à l'Assemblée nationale qu'on va continuer à utiliser. Le français est la langue officielle du Sénégal, mais on n'a pas dit que c'est la langue exclusive de travail.
Madame Pendanzia Essissé, députée à l'Assemblée nationale sénégalaise, au micro d'Idriss Fall.
Save
Voilà, et on écoute Alicia Keys, We Gotta Pray.
Oui, avec tout ce qui se passe autour de nous, Morgane, quelle que soit notre foi, il faut prier. Sirens everywhere, singing that street song. Violence everywhere, barely holding on. What the hell going on? Do you know who you are? Do you know who we are?
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Michel Joseph à la mise en onde.
Et Michel Dobinski à la console technique.
Un grand merci à toute la rédaction. Au micro, Morgane Guiriec.
Et Chérubin, Gabi Dorsil.